Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Blooming You, le podcast qui vous propose toutes les connaissances utiles à une vie bonne et heureuse. Nous avons une ambition, celle de vous inspirer, de vous aider à mieux vous connaître et surtout de vous faire du bien. Notre parti pris est de partager avec vous des savoirs ayant un impact positif sur l'homme et le vivant. Je suis Amal Dadol, votre hôte, et j'espère que ce contenu fera sens pour vous. Nous accueillons aujourd'hui la psychanalyste et membre de la Société française de psychologie analytique, Sophie Brown. Dans son livre « La tentation du repli », paru aux éditions du Mot Conduit, Sophie Brown interroge et analyse les souffrances inhérentes à la lourde pression qu'exerce la vie moderne sur le psychisme des individus. Dans son livre, Sophie Brown précise qu'aucune étude ne porte sur le phénomène de repli sur soi. Les chiffres sont dispersés entre des pathologies ou des comportements névrotiques. Selon une étude de l'UNICEF datant de 2014, près de 43% des jeunes interrogés entre 15 et 18 ans sont en situation de souffrance psychologique. 40% vivent des relations tendues avec leurs parents et 45% ont peur de ne pas réussir à l'école. 32% reconnaissent avoir pensé au suicide et 12% ont tenté de mettre fin à leur jour. Chez les adultes, l'OMS estime que les troubles dépressifs représentent le premier facteur de morbidité et d'incapacité sur le plan mondial. 5,2 millions de personnes en souffriraient en France. Une étude américaine de 2019 indique que 50% des adultes ayant entre 23 et 28 ans et 75% des 18-22 ans ont déjà quitté un emploi en raison d'une maladie mentale. Alors, nos psychés sont-elles préparées à la vie moderne? Quelle est l'importance de l'influence de la pression sociale et économique sur la construction psychique? Quelques éléments de réponse tout de suite avec Sophie Brown. Alors Sophie Brown, bonjour.
Bonjour.
Alors Sophie Brown, vous êtes psychanalyste et membre de la Société française de psychologie analytique. Vous nous recevez chez vous aujourd'hui pour parler de votre livre « La tentation du repli, burn-out, fatigue chronique, phobie sociale et scolaire, addiction aux jeux vidéo » paru récemment aux éditions du Mot Conduit. Alors, pour démarrer votre livre, vous parlez de l'enfance de Jung. Alors, comment l'enfance, la propre enfance de Jung et sa phobie scolaire a-t-elle inspiré l'écriture de ce livre?
C'est tout à fait étonnant, en fait. J'avais oublié cet épisode de phobie scolaire de Jung et j'ai commencé à travailler ce livre il y a 4 ans à peu près en voyant des patients se replier de plus en plus et vivre de plus en plus en vase clos et à l'intérieur de leur chambre et sortir le moins possible à l'extérieur. Et tout à coup, je ne sais pas comment, m'est revenu le fait que Jung aussi avait vécu une phobie scolaire. Et je me suis dit que décidément, cet homme, il avait effectivement vécu par anticipation beaucoup, beaucoup de ce que nous vivons aujourd'hui. Et il l'a décrit, en fait, ce qui, pour moi, en fait vraiment un précurseur. Beaucoup, pas beaucoup plus que Freud. Freud est évidemment un immense précurseur. Mais Freud a plutôt parlé de notre psychisme tel qu'il était au 19e ou au début du 20e siècle. Et Jung a déjà entendu à quel point ça allait devenir de plus en plus dur d'être un être humain avec une psyché de plus en plus conflictuelle. On a envie de tout et on veut tout à la fois. Et du coup, on a plein de conflits dans la tête. Et ça, il l'a super bien décrit.
Alors, vous citez dans votre livre l'exemple de la jeunesse japonaise et du phénomène Hikikomori qui concernerait aujourd'hui entre 300 000 et 600 000 personnes environ. De quel phénomène parle-t-on?
Alors, les Hikikomori, ce sont des gens au Japon qui, à un moment donné, ne sortent plus de leur chambre. En général, ils commencent jeunes, mais maintenant, comme ça fait une vingtaine d'années que le phénomène existe, il y en a qui ont 60 ans, 70 ans, et il y en a qui ne sont pas sortis de leur chambre ou de leur appartement, pas une seconde, ils ne sont pas sortis dans la rue. Ça commence souvent par un gamin qui se replie, qui reste dans sa chambre. Et il faut que les parents lui amènent à manger, parce qu'il ne sort même pas pour prendre son repas. Ils sortent, certains, pas tous, mais dans les formes les plus graves, ils sortent même plus pour aller aux toilettes. Donc les parents amènent des seaux hein, pour qu'ils puissent déféquer, par exemple. C'est incroyable. Ça a commencé avec 1, puis 2, puis 10, puis 50. Et aujourd'hui, on pense qu'il y en a à peu près 700 000.
C'est énorme. Et comment
c'est
ça s'explique?
Énorme. Je crois que la pression qui est mise sur les enfants japonais nous raconte quelque chose de la pression qui est mise aussi chez nous dans nos pays occidentaux, mais elle est beaucoup, beaucoup plus forte. Il y a une pression terrible, je crois, sur les enfants japonais, sur la réussite scolaire, sur le fait qu'ils doivent devenir... Il y a un modèle de perfection terrible. Ils ont tellement le sentiment qu'ils ne vont pas y arriver que du coup, ils préfèrent abandonner complètement la lutte et rester au lit chez eux. Et c'est inquiétant, hein. C'est vraiment un phénomène inquiétant.
Alors en France, quelle est l'importance de l'influence de la pression sociale et économique sur la construction psychique? Par exemple, eu égard à vos patients, puisque vous donnez pas mal d'exemples dans votre livre.
Moi, je pense que c'est un des travers de la psychanalyse jusque-là, c'est de ne pas avoir suffisamment pris en compte le social et l'économique. On n'est pas des individus séparés de notre monde. On se construit dans ce monde-là. Et d'ailleurs, Freud a beaucoup écrit aussi sur malaise dans la culture, il s'est beaucoup intéressé à ça. Et Jung, qui nous parle d'un inconscient collectif ou d'un inconscient du collectif, il nous parle bien aussi de la culture dans laquelle on est élevé. Et donc, je crois qu'il est temps, il y a beaucoup de psychanalystes qui le font quand même maintenant, mais il est temps qu'on s'interroge sur comment la culture dans laquelle on vit façonne nos propres psychés et comment on peut essayer justement de trouver des petites marges de manœuvre à l'intérieur de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, la pression qu'on met sur les enfants, par exemple, fait que les plus fragiles, les plus sensibles craquent. Quelle pression on met sur eux dès l'école, dès la maternelle, on les note, on les compare les uns avec les autres, on les élève dans la compétition, tout de suite. Aujourd'hui, il n'y a pas un jeu éducatif pour un enfant de 2 ans qui ne soit pas un jeu pour apprendre quelque chose. Ils ne jouent plus, les enfants. Et surtout les enfants des villes, on ne les voit plus, je ne sais pas moi, se rouler dans un bac à sable, s'asperger d'eau, rentrer absolument dégoulinant et sale chez eux. Voilà, ils apprennent. Tout est fait pour l'apprentissage et pour qu'ils apprennent. Alors ça, c'est la première chose, et je pense que ça les coupe de leur corps et de leurs sensations, et que du coup, ça leur enlève des boussoles qui sont extrêmement importantes après pour se développer. La deuxième chose, c'est que en faisant ça et en les mettant dans une pression comme ça, on leur propose un modèle qui est absolument inatteignable, donc ils se sentent tous nuls. Ils n'y arriveront pas. Alors il y a ceux qui ont la chance, si on peut dire, de faire du piano, de l'anglais, 3 sports et d'avoir des emplois du temps de ministre, et ceux-là, ils ont l'impression qu'ils ne vont pas y arriver, de toute façon, parce qu'on leur en demande trop. Et puis, il y a ceux dans les autres classes sociales qui n'ont pas cette chance-là et qui, eux aussi, se sentent nuls parce que, justement, ils n'ont pas les bons codes, etc. Donc, on réussit à peu près 100% d'échecs. Hein. Pour moi, ce n'est pas du tout lié aux profs. Je trouve que les instits et les profs font un boulot mais remarquable et qu'en général, au contraire, ils sauvent des enfants tous les jours. Enfin, vraiment, ils font un boulot extraordinaire. Donc, ce n'est pas du tout à ce niveau-là que ça se passe. C'est vraiment au niveau d'un système. Et je crois parce qu'en fait, c'est la peur qui domine.
Alors, vous dites dans votre livre, la transmission n'est plus ce qu'elle était. En quoi la société actuelle atrophie la mission parentale? Vous donnez des exemples sur l'atomisation des familles avec les familles monoparentales, par exemple, la destruction de l'autorité paternelle, qui laisse béante la question de la fonction paternelle, qui, je précise, peut être tenue indifféremment par l'un ou l'autre parent, vous le dites bien dans le livre. Mmh. Est-ce que vous pourriez expliquer ça? Parce que moi, en tant que maman, c'est vrai qu'on s'interroge beaucoup, et après on ira sur la question effectivement du parent parfait qui a peur de traumatiser son enfant, mais aujourd'hui, en quoi la transmission n'est plus ce qu'elle était?
Il y a deux choses importantes, je trouve, sur la transmission. La première, c'est le rôle de la technique. Aujourd'hui, dans des tas de familles, les enfants, ils savent mieux utiliser les outils technologiques, Internet, etc., que les parents. Et comme ça prend une place de plus en plus importante, l'enfant a un savoir que le parent n'a pas. Je pense que c'est très récent ça, hein, et que dans les générations d'avant, les parents, ils savaient plus de choses que les enfants. Donc ils transmettaient. Aujourd'hui, on a presque inversé les choses. C'est les enfants qui apprennent des trucs à leurs parents. Ça change beaucoup de choses. Et ça arrive très tôt déjà. Alors, juste une remarque préalable. Je ne dis pas du tout que c'était mieux avant. Je ne le pense pas. C'était pas mieux avant. C'est pas la question. La question, c'est en quoi ce qu'on vit aujourd'hui influence nos psychés. De la même façon, il y avait des choses avant qui influençaient les psychismes et qui les fragilisaient aussi, évidemment. C'est plus les mêmes et c'est plus les mêmes fragilités. C'est juste ça que je dis. Hein, parce que c'est toujours compliqué quand on dit « avant c'était comme ça, maintenant c'est comme ça », on a tendance à se dire « ah ouais, mais elle trouve que c'était mieux avant ». Non, pas du tout. Je ne trouve pas que c'était mieux avant. Je trouve qu'on a beaucoup de chance de vivre dans l'époque dans laquelle on vit, vraiment. Mais elle a aussi ses revers et il faut qu'on soit très attentif à ses revers. Alors, la première chose, c'est la technique. La deuxième chose, c'est ce que vous disiez. Avec les enfants, la transmission n'est plus parce que, je crois, l'autorité... Alors, parlons de l'autorité paternelle. On élève aujourd'hui les enfants comme si c'était des petits adultes. On leur demande de choisir, on leur demande de décider des choses alors qu'ils n'ont pas les moyens psychiques encore de décider. Moi, je vois énormément de jeunes parents aujourd'hui, je pense que vous en voyez autant que moi, qui demandent à des enfants de 2 ans s'ils veulent manger ceci ou cela, ou de 3 ans. C'est comme si on ne voulait plus imposer quelque chose aux enfants. Je pense que ça, c'est le développement du narcissisme qui fait ça. On veut être aimé par ses enfants. Alors, on a moins d'enfants qu'avant, on est, voilà. Donc, on veut que les enfants nous aiment. Et on a l'idée bizarre que si on leur impose des choses, ils vont moins nous aimer. Mais ce n'est pas vrai. Et en faisant ça, on leur enlève beaucoup de sécurité. Ça, c'est le point le plus important. Un enfant, il a besoin de sécurité. Si on lui dit, tu te couches à telle heure, tu fais ça, tu manges à telle heure, etc., en fait, ça le sécurise. Et là, dans l'éducation actuelle, j'ai le sentiment qu'on les laisse dans une sorte de vide un peu sidéral et qu'ils ne sont pas du tout en sécurité. Et on les élève, moi je suis frappée par la façon dont on parle aux petits-enfants aujourd'hui. On leur parle comme si c'était des petits adultes, je dirais même des petits ministres. On a l'impression qu'on s'adresse à des ministres, mais on parle à des enfants quand même. Je cite un exemple dans mon livre qui m'avait vraiment marqué dans le train, de cette grand-mère qui avait dit à sa petite-fille, parce qu'ils allaient loin, on va prendre le métro. La petite-fille, elle dit non. Ok, dit la grand-mère, on ne prend pas le métro. Et la petite-fille, elle finit par dire, c'est quoi le métro ? Voilà. Et je trouve que cet exemple, il est exactement ce qu'on fait aux enfants aujourd'hui.
Vous parlez de l'éducation guimauve. Hein. Alors, moi, j'ai envie de ramener à la question de la pression du parent parfait qu'on vit aujourd'hui, avec la parentalité positive, qui a peur de traumatiser son enfant. En quoi aussi ça impacte cette éducation guimauve que vous citez dans votre livre, d'ailleurs j'ai beaucoup aimé le terme, et cette relation quasi d'adulte à adulte avec son enfant.
Mais aujourd'hui, j'ai des patientes enceintes qui me disent « il ne faut pas que je pense telle chose parce que ça va traumatiser mon bébé dans mon ventre. » Voilà. Et il faut leur expliquer que non, s'il y a un événement très grave qui arrive, oui, ça peut, le bébé peut le ressentir, évidemment, parce qu'il va y avoir des systèmes d'hormones, etc., qui vont se déplacer. Mais bien sûr, il y a des chocs qui vont l'affecter. Mais les pensées de la maman n'affectent pas le bébé qui se développe dans le ventre. Il faut qu'on arrête avec ces trucs-là, parce qu'on rend les gens dingues, vraiment, complètement dingues. Et c'est vrai aussi de l'éducation. Après, on sait ce qu'il faut faire avec un bébé, je crois. Là, j'ai des patientes qui viennent d'accoucher. Elles sont sur Internet toute la journée. Est-ce qu'il faut faire comme ça, pas comme ça? Et moi, je leur dis, mais vous êtes sur des forums Internet, vous ne savez même pas qui c'est la femme qui est en train d'écrire sur le forum. Pourquoi vous lui faites plus confiance qu'à vous? Pourquoi les gens ne se font plus confiance dans quelque chose un peu d'instinctuel? Même si aujourd'hui c'est un gros mot, mais moi je crois quand même qu'on a un instinct, je ne sais pas si on a un instinct maternel ou pas, on s'en moque, on a un instinct pour s'occuper des enfants, c'est sûr. Et son enfant, on le connaît, on est le seul à savoir ce qu'on peut faire avec lui. Je veux dire. Donc arrêtons de nous poser autant de questions. Et en écrivant le livre, ça m'a intéressée parce que je suis allée regarder l'histoire du traumatisme.
Oui. Hein ?
Le mot traumatisme, il est employé pour la psyché il y a un siècle. Il n'existait pas avant. C'est-à-dire que il faut qu'on se dise qu'avant, un peu plus d'un siècle, mais avant les années 1900, les parents, c'était, le concept de traumatisme n'existait pas. Et en un siècle, on est arrivé à l'idée que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, chaque phrase qu'on va prononcer, va traumatiser l'enfant à vie. Alors moi, je suis ravie, parce qu'après, il va faire 15 ans de psychanalyse, c'est très très bien pour les psychanalystes, mais je pense très très profondément que c'est pas ça, un traumatisme.
Qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme ?
Un traumatisme, c'est quand on se fait violer, quand on se fait agresser, quand on a des parents pervers, quand on a des parents toxiques. C'est-à-dire que c'est soit un événement très grave qui fait qu'on ne va pas pouvoir supporter l'émotion psychiquement et on a un risque que le psychisme explose ou crée des défenses très importantes, ou bien c'est une répétition de petits événements, ce n'est pas forcément un seul gros truc, ça peut être une répétition de petits événements, mais il faut que ces petits événements-là soient quand même suffisamment fort et impactant pour aussi que le psychisme de l'enfant ne puisse pas le supporter. Ça veut dire vraiment des parents toxiques ou pervers. Mais un parent, comme dit Winnicott, suffisamment bon, c'est-à-dire pas trop bon et pas trop mauvais, eh ben il va pas traumatiser l'enfant parce qu'il va lui demander, de faire ses devoirs ou de rester dans sa chambre ou parce qu'on va le mettre dans un petit parc pendant une demi-heure parce qu'on a besoin de faire autre chose. Ça ne traumatisera pas les enfants. Et là, on est arrivé à un niveau vraiment où on pense que chaque phrase, chaque mot peut être traumatisant. Ce qui veut dire aussi, hein, à l'inverse, le niveau de perfection qu'on demande à nos enfants. On veut qu'ils soient parfaits, on veut que rien ne les traumatise, on veut qu'ils puissent être totalement épanouis. Et en faisant ça, on ne les prépare absolument pas à la vie, parce que la vie, elle est quand même assez difficile, on le sait tous. Il va bien falloir qu'on supporte les épreuves d'une façon ou d'une autre. Et je ne dis pas qu'il faut donner des épreuves à nos enfants, évidemment non. Mais un peu de frustration, un peu de manque, c'est pas mal non plus. Parce que si on n'a pas de manque, on n'a pas d'envie non plus.
Alors, vous dites que vous voyez souvent débarquer dans votre cabinet des parents débordés par les soins à donner aux enfants, au détriment des activités sportives ou artistiques. Vous dites que notre éducation pathologise, voire elle psychiatrise, au lieu de laisser vivre et de développer.
Oui.
Chacun est étiqueté par son déficit plutôt que par son potentiel. Alors, la question, Sophie Brown, c'est quel conseil donneriez-vous aux parents soumis à ces pressions éducatives qui sont, ma foi, anxiogènes et dont moi-même, je voulais vous dire, en tant que maman de deux enfants, j'ai été victime aussi avec une école qui me demande d'aller faire tester mon fils parce qu'on suspecte quelque chose parce qu'il ne va pas assez vite à un moment donné. Bon, évidemment, il n'y avait rien, mais il y a une pression, j'ai quand même emmené mon fils pour faire ces tests. Et c'est vrai que je l'ai fait en me disant, mais c'est quand même de la folie, et en me regardant faire et en me disant, mais à quoi j'en suis réduite aujourd'hui pour pouvoir offrir à mes enfants une éducation que j'estime en tout cas
c'est terrible.
D'excellence.
Mais ouais, c'est terrible. Votre exemple, il est terrible. Comme si un enfant, parce qu'on ne fait plus confiance dans les processus et dans le fait que les choses, elles vont se faire. Tous les enfants ne se développent pas au même rythme. Et puis, il y en a qui sont plus lents, et puis il y en a qui sont plus rapides. Et puis, il y en a qui... alors, si on prend les tout-petits, il y en a qui marchent d'abord, il y en a qui parlent d'abord. Et puis, on peut globalement faire confiance. Un jour, ils marcheront tous, ils parleront tous. Et ça, on a complètement oublié ça aujourd'hui. Donc, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, il faut absolument tester, mettre dans une petite case et créer une pathologie. Alors maintenant, dans une classe aujourd'hui, vous avez 3 dyslexiques, 5 dysorthographiques, 4 dyscalculiques. Enfin, c'est-à-dire que vraiment, chacun est étiqueté par sa pathologie et par ses déficiences. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on dit à un enfant, alors sauf si c'est grave, évidemment, une très 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 grosse... oui, ça, bien sûr que, évidemment, dyslexie, peut-être que... C'est pas peut-être, il faut s'en occuper. Mais là, l'histoire de votre fils, c'est incroyable. On le laisse se développer tranquille. Et puis, on lui fait confiance dans le fait que, d'abord, peut-être il est un peu plus lent que les autres. Et alors, peut-être qu'il pense autrement. Peut-être qu'il prend d'autres chemins dans sa tête. Peut-être que c'est un créatif. Peut-être que c'est un artistique. Il fera autre chose. Il n'y a pas un seul chemin. Il n'y a pas un seul modèle qu'on peut appliquer. Et là, et on ne se rend pas compte qu'en faisant ça, qu'est-ce qu'ils ressentent eux ? Qu'est-ce qu'ils ressentent un enfant ? Parce que là, tant mieux, le vôtre, on lui a dit, il n'a rien. Mais on lui aurait dit qu'il était, je ne sais pas quoi, un peu déficient intellectuellement, par exemple. Il en sortait comment ? toute sa vie, il traînait ce boulet en se disant « moi, je suis plus lent que les autres ». Et hop, ça devient un complexe terrible qui, après, va vraiment être un boulet toute sa vie. On ne se rend pas compte de ça. Voilà. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, il y a un enfant... Alors, il y a les kilos de trop, les dents pas bien alignées, les dysorthographies, machin, etc. Enfin, je veux dire, il y a
les TDAH.
Pas... Les TDAH. Alors maintenant, les hypersensibles, je sais pas comment on dit, là, haut potentiel. Mmh. Enfin, alors, quand ils sont pas haut potentiel intellectuel, ils sont haut potentiel émotionnel. Mmh. Quand ils sont pas... Mais arrêtons de mettre les gens dans des petites cases. Arrêtons. On laisse les processus se développer. On laisse les enfants vivre. Dolto, elle disait, arrêtez de scruter vos enfants. Mmh. Voilà, laissez-les un peu tranquilles, laissez-les vivre un peu. Donc c'est ça le conseil aux parents. Laissons-les vivre un peu et faisons confiance dans le fait que ils vont, s'il y a un truc qui ne marche pas à un moment donné, il marchera un peu plus tard. Ce n'est pas très grave. Voilà, ça va se développer.
Et la posture face effectivement au système, à la société, qui va réclamer à un moment donné une nomenclature. Comment on répond en tant que parent pour marquer à un moment donné une... Voilà, je ne sais pas, protéger son enfant en tout cas ou...
Je crois qu'il faut, essayer de résister. Je crois vraiment qu'il faut essayer de résister, de pas rentrer dans ces systèmes-là et de ne pas accepter forcément que les enfants soient testés à tout bout de champ pour savoir s'ils sont ceci ou cela, parce que ça fige quelque chose. À chaque fois qu'on pose un diagnostic, on fige quelque chose et on empêche un processus de se dérouler. Or, la vie, je crois, la vie, c'est un processus. Et il faut le laisser se développer et se dire que, encore une fois, il ne va pas se développer pareil pour chaque enfant. Donc, il faut essayer de résister à ça, mais c'est très, très, très difficile. Hein. C'est presque devenu impossible. Alors, moi, je comprends bien parce que c'est rassurant. Quand on dit, votre fils, reprenons votre exemple, il est un peu plus lent que les autres. Mais c'est parce qu'on a testé, c'est parce que, je ne sais pas quoi, il a telle ou telle pathologie. D'une certaine façon, on se dit c'est rassurant parce qu'on va pouvoir le soigner. Mais en faisant ça, on a déjà décidé que c'était une maladie et qu'il fallait le soigner. Voilà. Or, ce n'est pas forcément une maladie, il ne faut pas forcément le soigner parce qu'on enlève aussi toute sa singularité. Votre fils, il est comme ça. Eh bien, il va faire quelque chose de sa vie comme ça. Voilà. Et puis, on ne sait pas quoi. Et peut-être que ce sera merveilleux, magnifique, extraordinaire et qu'il ne l'aurait pas fait si on l'avait soigné. Donc, voilà, on est vraiment en train, on fait... En fait, ce qu'on fait avec les phobies, hein. Pour moi, c'est le développement d'une société phobique, ça. On a peur de tout. On a peur que nos enfants n'y arrivent pas. On a très peur, évidemment, dans ce monde où l'économie... c'est vrai que tout le monde a peur et on vit dans une guerre économique. Donc, c'est comme si on créait des guerriers, quoi. Il faut qu'ils soient le plus parfait possible. Mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'en voulant créer des guerriers, on les affaiblit. Et donc, du coup, au contraire, on n'arrive pas à des guerriers qui vont se battre en se disant « j'ai envie de faire tel truc, je vais y arriver ». On arrive à des gens extrêmement faibles qui n'ont plus la force de se battre, en fait. Moi, je ne veux pas forcément faire des guerriers, hein, mais je veux bien faire des guerriers pour des gens qui veulent atteindre leurs propres objectifs. Voilà. Je veux devenir jardinier, eh ben, je vais faire ce qu'il faut pour devenir jardinier. Mais ça, il faut une certaine force. Il ne faut pas s'être dit toute son enfance « je suis nul, je suis le plus nul ». Je suis le pire des nuls, parce que ça n'a jamais aidé personne de se dire qu'il était nul.
Comment faire mieux ?
Comment faire suffisamment bien, disait Winnicott. Une mère suffisamment bonne. Trop bonne, ça étouffe les enfants. Trop mauvais, évidemment, on s'occupe pas assez de ses enfants. Arrêtons de vouloir faire mieux. Arrêtons de vouloir faire toujours plus et toujours mieux. Essayons de faire juste... suffisamment bien ce qu'on est, voilà, avec un peu d'attention, un peu de gentillesse, un peu d'erreur, beaucoup d'amour, et puis en se trompant tout le temps, et puis en acceptant de se tromper, et peut-être en acceptant soi-même. C'est super dur, hein, moi j'y arrive pas, mais j'essaye, voilà, déjà mes propres imperfections, et après, bah, si j'arrive déjà à assumer mes propres imperfections, je me dis, bah, peut-être je vais aider les autres à assumer les leurs. Mais vraiment, et ça aussi, je le parle, cette espèce de slogan qu'on voit partout aujourd'hui, je veux être la meilleure version de moi-même. Oui. Non, Moi, je ne veux pas être la meilleure version de moi-même, parce que je ne suis pas un logiciel, je ne veux pas upgrader ma version. Et puis, je veux juste essayer d'être et de faire des choses que j'aime. Et puis voilà, et que la vie soit une forme d'aventure. Mais ce n'est pas une aventure suffisante de vouloir devenir la meilleure version de soi-même.
Et vous parlez de votre livre, de cette injonction à la méditation pour rentrer dans cet objectif de la meilleure version de soi-même. Et d'ailleurs, vous le dites avec beaucoup de... J'ai senti de la colère, de qui se moque-t-on?
C'est vrai, mais c'est vrai.
C'est votre phrase?
Oui, alors ça c'est sur le terme, c'est oui. La méditation de pleine conscience.
C'est ça. Hein,
où là je me dis, de qui se moque-t-on? Voilà, parce que qu'on fasse de la méditation, je veux bien que les gens fassent de la méditation, c'est très bien. S'ils ont envie d'en faire, pas pour devenir parfait et surtout pas pour devenir serein. On a aujourd'hui, effectivement, une injonction de devenir serein que je ne comprends pas. Je ne sais pas de quoi ça parle. On a des émotions. Notre psyché est composée d'émotions. Bien sûr qu'il faut qu'on canalise ces émotions. Et la question, elle est qu'on n'agisse pas ces émotions. Voilà, j'ai une émotion, je ne vais pas tout de suite aller taper celui qui m'énerve. Ça, on est bien d'accord. Mais pour autant, acceptons déjà d'avoir des émotions, d'avoir des envies, d'avoir des désirs, d'être vivant, quoi. Il y a dans cette course à la sérénité et parfois à la méditation à haute dose quelque chose, moi, qui me gêne parce que je le trouve du côté plutôt de l'apaisement. Freud pourrait parler de pulsion de mort plutôt que de la pulsion de vie. Être vivant, on fait faire de la méditation à des enfants aujourd'hui dans des classes. Je ne sais pas, moi, si c'est bien. En tout cas, je pense qu'on pourrait se poser la question. Moi, en tout cas, je préfère les enfants qui jouent au foot et qui un peu se tapent dessus que des enfants qui font de la méditation. Parce que je me dis, où passe l'énergie? Où passe la colère? Où passe la rage? C'est aussi des émotions humaines. Il faut peut-être qu'on les accepte aussi. C'est-à-dire, où sont nos imperfections, hein? Jung, il parle de l'ombre. Et il dit, l'ombre, c'est tout ce qu'on n'aime pas chez nous. Voilà, on n'aime pas être en colère, on n'aime pas être jaloux, on n'aime pas quand on est méchant. Mais alors, du coup, ben, on le met dans un coin, dans l'inconscient, et puis on fait comme si ça n'existait pas. Et puis alors, un jour, ça explose. Parce que ça fait partie de nous, et que ça fait aussi partie de notre énergie. Donc, j'ai l'impression qu'on essaye de supprimer cette ombre et qu'aujourd'hui, il serait extrêmement utile plutôt qu'on l'accepte et qu'on accepte nos imperfections et qu'on accepte effectivement de se dire que, bah oui, on a peur, c'est vrai, oui, on est jaloux, oui, on peut être méchant à certains moments, voilà, on n'est pas parfait, et ben c'est la vie, c'est comme ça. Je ne dis pas du tout qu'il faut qu'on l'accepte sans rien faire, hein. Mais en être conscient, c'est peut-être la première étape pour justement... les canaliser, mais pas les étouffer. C'est pas la même chose de les canaliser et de les étouffer. Et moi, je me demande si quand on fait faire de la méditation à des enfants à l'école, on n'étouffe pas leur énergie plutôt que de leur apprendre à la canaliser. Voilà. Mais par ailleurs, je trouve ça passionnant, la méditation.
Apprendre à canaliser, qu'est-ce que ça veut dire? Apprendre à canaliser, aider son enfant à canaliser, ça veut dire quoi?
Eh bien, ça veut dire, par exemple, un enfant qui s'énerve, on peut lui demander, pas sur le moment où il est énervé, parce que ça ne marche pas, mais après, par exemple, on peut lui demander d'essayer de mettre des mots sur sa colère. Qu'est-ce qui t'a mis en colère à ce moment-là? Pourquoi tu étais en colère? Qu'est-ce qui s'est passé? Et on peut l'aider à lui proposer des hypothèses, par exemple. Est-ce que c'est parce que ton frère t'a tapé dessus? Est-ce que c'est parce qu'il t'a piqué ton jouet? Est-ce que c'est parce que... Voilà. C'est comme ça qu'on canalise. Les mots, c'est notre façon de penser, c'est notre façon de communiquer avec l'autre. Et mettre des mots sur nos émotions, c'est une façon de les canaliser. Hein? Et voilà, alors ça peut être au début déjà de lui dire, bah, attends, là, moi, j'accepte pas cette colère-là, donc tu vas un peu dans ta chambre et puis tu te calmes. Ça dépend de l'âge qu'il a, hein, mais voilà. Mais quand il revient après, non pas de lui dire que c'est mauvais qu'il se soit mis en colère, ou qu'il est méchant, parce qu'aujourd'hui on fait beaucoup ça, moi j'entends beaucoup de parents dans la rue dire à un enfant, tu es méchant. Et là, on crée quelque chose, je trouve, de terrible. Dire à un enfant, tu as fait quelque chose, tu as fait du mal à l'autre, tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, c'est pas la même chose que de lui dire, tu es méchant. Hein? Mmh. Et nous, souvent dans l'éducation, on confond et l'enfant, il se sent en tant qu'individu rejeté ou, voilà, alors que c'est son comportement. Mais on a tous des comportements qui ne sont pas terribles. Mais il faut toujours distinguer le comportement de l'être. Ça, c'est vraiment très important. Et essayer d'éviter. Donc, un enfant, il se met en colère, et ben, on ne lui dit pas « t'es colérique ». Ah ben, décidément, toi, t'es vraiment colérique ou t'es vraiment tout le temps énervé. Ou voilà. On essaye de réfléchir avec lui à qu'est-ce qu'il a mis en colère. Et ça, c'est hyper utile parce que la fois d'après, quand il commence à sentir la colère monter, il va commencer à se demander pourquoi il est en colère. Et du coup, ça va l'aider à canaliser cette émotion. Ma fille me racontait qu'il y a des écoles dans lesquelles aujourd'hui, on apprend aux enfants, on leur dit par exemple, quand ils se mettent en colère, on dit ça, c'est le crocodile. T'as un crocodile dans ta tête. Pourquoi il est en colère, ton crocodile? Et puis on met d'autres petits personnages comme ça et on fait dialoguer les petits personnages dans la tête. Et en fait, ça, c'est tout à fait la vision jungienne de la psyché. Voilà, on a plein de petits personnages qui dialoguent tout le temps. Et moi, je pense que dans l'étape où on est aujourd'hui, il faudrait avoir une pédagogie du psychisme auprès des enfants et des adultes aussi. Je ne comprends pas pourquoi ça fait encore partie. On apprend plein de trucs, on sait des tas de choses, mais qui est-ce qui sait vraiment quelles hypothèses on a, parce qu'on n'est pas sûr, mais quand même quelles hypothèses on a aujourd'hui de comment ça fonctionne dans notre psyché. Justement, le lien entre les émotions, les affects, la pensée, les sensations, voilà, tout ça, le moi, l'inconscient, le conscient. Or, la psychanalyse a 100 ans, donc un peu plus de 100 ans maintenant, on commence à avoir quelques modèles, quelques images. Je ne comprends pas pourquoi on ne les apprend pas aux gens. Je ne comprends pas pourquoi on les fait. Alors qu'en plus, tout le monde a envie d'apprendre ça. Il me semble. Et en fait, on n'en sait rien. On continue à faire peut-être une leçon sur Freud en terminale, en philo. C'est tout. Pourquoi on sait. Voilà. Et je trouvais ça vraiment hyper intéressant, ces écoles dans lesquelles on apprenait aux enfants que oui, bien sûr, c'est conflictuel dans leur tête. Alors, c'est ce film extraordinaire Vice Versa. Je ne sais pas si vous l'aviez vu.
Non.
Alors, allez le voir, emmenez vos fils voir ça, ouais. Ou regardez-le avec vos fils, parce que c'est la première fois, c'est un dessin animé qui se passe à l'intérieur de la tête d'une petite fille, et on voit les différentes émotions. Elle doit déménager, ses parents l'emmènent ailleurs, et on voit comment la tristesse, alors la tristesse est représentée, la joie, etc. Et toutes ces émotions-là qui sont pas d'accord les unes avec les autres, et laquelle va gagner. Et c'est passionnant, et c'est vraiment passionnant de leur apprendre ça.
Mais écoutez, j'irai, j'emmènerai mes fils quand les... Enfin non, mais ouais, là, pour le coup, c'est pas... Mais je vais le trouver, je
voilà,
pense.
Vous trouverez, ouais.
Alors, l'école dont vous parliez tout à l'heure me rappelle effectivement un papier qu'on a fait sur une école qui a été fondée par Caroline Sost, la Living School, je crois, il y en a une dans le 20e, donc ça me... où on parle effectivement des petits crocodiles dans l'esprit, donc c'était juste pour faire ces petits apartés pour ceux qui nous écoutent. Sophie Brown, je vous remercie beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, La tentation du repli, Burnout, fatigue chronique, phobie sociale et scolaire, addiction aux jeux vidéo, aux éditions du Mot Conduit. Je sais que vous êtes sur l'écriture d'un troisième ouvrage en ce moment. Vous pourriez nous en dire un petit peu plus, un petit scoop.
Alors, c'est vraiment le tout début.
Le sujet.
En fait, on a eu envie d'écrire un livre avec ma fille qui a 31 ans. Et on a envie de regarder les grandes images, justement les grandes images qui sont dans le psychisme des hommes et des femmes et qui soit les amènent à avancer, soit bloquent. Voilà. Et je veux bien vous demander d'ailleurs, tiens vous, comme ça, à l'impromptu, une image de modèle et une image de contre-modèle à laquelle vous pourriez vous identifier. Comme ça, très 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 spontanément.
Alors, une image de modèle à laquelle je pourrais m'identifier, Oprah Winfrey.
D'accord. Mais ouais, mais... Pas mal, c'est quand même, il y a de l'énergie. Hein.
J'adore.
Il y a vraiment de l'énergie.
Et contre-modèle, alors là, bon, c'est plutôt... Alors, un peu les je sais, j'ai pas de nom comme ça, mais un peu les pin-up sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est pas mon truc. En fait, le côté narcissique me gêne profondément, je vois pas d'intérêt. Mais ça, c'est vraiment le truc qui me... voilà, je rejette.
Alors, juste un petit point, parce que ça, je pense que c'est important sur l'histoire narcissique. On dit narcissique, et en fait, on devrait dire l'inverse. On devrait dire des failles narcissiques. Ouais. Parce que, en fait, le narcissisme, avoir une bonne image de soi, c'est vraiment bien. Et c'est ce qu'on peut avoir de mieux dans la vie pour avancer. Les gens qui ne parlent que d'eux, se montrent trop et sont complètement centrés sur eux-mêmes, c'est l'inverse. Ils n'ont pas un bon narcissisme. Ils ont de telles failles narcissiques qu'ils sont en permanence en train d'essayer de les combler en s'exposant ou en montrant qu'ils sont les plus forts. Et donc, on ne devrait pas dire une personne narcissique, mais une personne qui a des failles narcissiques. Enfin... voilà. Et un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a tellement de failles narcissiques qu'il est tout le temps en compétition avec les autres et en train d'essayer de se valoriser en disant « mais moi je suis le meilleur et regarde, toi t'es de la merde ». Voilà. Donc, mais un bon narcissisme, c'est nécessaire. On en a vraiment besoin. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup Sophie Brown pour ces
merci beaucoup à vous.
Précieuses infos, ces précieux conseils. Votre bouquin est vraiment super. Moi, je l'ai là sous les yeux. Il a noté dans tous les sens. J'y ai pris beaucoup de plaisir.
Merci beaucoup.
Pourquoi avoir écrit ce livre hein? Pourquoi avoir décidé d'écrire ce livre là, maintenant?
J'ai décidé ça il y a 4 ans. J'ai commencé il y a 4 ans, bien avant le Covid. Le Covid m'a plutôt un peu gênée d'ailleurs, parce que je trouvais que c'était tellement... une loupe et comme un miroir grossissant sur tous ces phénomènes que j'étais en train de décrire, que c'était presque trop. J'ai eu envie d'écrire ce livre quand j'ai vu des patients et des patientes qui pratiquement ne sortaient plus de chez eux. Et même des gens qui travaillaient, mais qui rentraient le soir et qui restaient tout seuls à regarder des séries sur Netflix, par exemple. Et ça m'a beaucoup troublée, et notamment des jeunes. Et je me disais, mais alors si même les jeunes y perdent l'énergie de la rencontre et l'envie de la rencontre, c'est que quand même il y a quelque chose de grave qui est en train de les attaquer et de les fragiliser. Et je pense que notamment les failles narcissiques sont telles dans notre société aujourd'hui, justement par rapport à ce modèle, on se sent tous tellement nuls qu'on a tous des failles narcissiques et que du coup le sens de la relation se perd. On a du mal à être en relation parce qu'on a toujours l'impression que l'autre nous agresse en fait, hein. Il est en train de nous harceler, il est en train de nous dire qu'on n'est pas assez beau, assez jeune, assez sympa, assez intelligent, assez je ne sais pas quoi. Il nous regarde et on ne voit que ça dans ses yeux. Donc, il vaut mieux être tout seul, parce que tout seul, on est tranquille. Mais c'est affreux.
Ouais. Moi, je vois du vide, en fait, mais c'est moi.
Non, mais c'est vrai. Ce sentiment de nullité crée un sentiment de vide. Hein. Et ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Personne n'est vide. Moi, je voudrais vraiment le dire très fort. Les gens se sentent vides, mais personne n'est vide. Ça n'existe pas, quelqu'un de vide. Simplement, il y a quelque chose qui est déconnecté. Et ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est pour ça que la psychanalyse, ça marche, parce que ça reconnecte avec quelque chose de profond. Moi, j'ai beaucoup de patients qui me parlent du moi profond. Hein. Le moi profond, on pourrait dire, c'est l'inconscient, c'est le soi de Jung, c'est... quelque chose de vivant à l'intérieur de nous. Mais ce quelque chose de vivant, il a eu tellement peur à certains moments qu'il est parti se cacher. Ce n'est pas la personne qui est enfermée dans sa chambre. C'est son moi profond qui s'est caché et qui s'est enfermé et qui fait que la personne, elle se sent vide. Et quand on arrive à reconnecter, mais il y a des gamins qui sont allongés sur un canapé qui ne font rien, et tout d'un coup, ça reconnecte à quelque chose, pas tout d'un coup, mais au bout d'un moment, ça reconnecte et ils ont plein d'envie de faire plein de choses. Ça n'est jamais vide, un être humain. Jamais.
Une question, combien de temps entre le moment effectivement où vous recevez un patient avec un... Alors, je sais, chaque patient est unique, mais c'est vrai, alors, entre la psychanalyse, la psychiatrie, la psychologie, bon, déjà, il faut trouver effectivement quel praticien va être le meilleur pour nous. Et puis, une fois qu'on l'a déterminé, pour combien de temps on en a?
C'est à la fois long et pas si long que ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas 10 ans. Enfin, aujourd'hui, on a cette image encore de la psychanalyse avec des cures. Il y a des cures qui durent 10 ans, 15 ans, etc. Mais c'est aussi parce que les gens, ça les intéresse, ça les passionne, qu'ils ont envie d'approfondir quelque chose, d'aller encore plus loin. Sur des jeunes ou sur des ça dépend, vraiment, ça dépend. Mais moi, je dirais 2-3 ans. Alors ça peut paraître très long, 2-3 ans, 4 ans, ça peut paraître très très long. Mais en même temps, si on veut vraiment prendre le temps d'aller déconstruire toutes les défenses qui se sont construites et d'aller travailler derrière les défenses pour aller retrouver et redonner confiance justement à ce moi un peu profond qui a envie de s'exprimer, il faut forcément un peu de temps. Et ça, c'est aussi une des choses qui m'énerve aujourd'hui, c'est le côté baguette magique. Hein. On a un problème, mais on va chercher la baguette magique qui, en 2 séances, va nous aider et va faire qu'on va aller mieux. Ben, je crois que ça ne marche pas comme ça. Moi, je crois que, voilà, il faut faire un peu d'effort, il faut y passer du temps. Et ce n'est pas grave parce que c'est intéressant en même temps. Et moi, je crois que les gens qui font une psychanalyse, eh ben, ils s'intéressent, ils apprennent à se connaître eux, ils apprennent à connaître les autres. Ils se retrouvent en meilleure relation avec leur entourage. Enfin, voilà, je pense que c'est aussi très intéressant. Et ce n'est pas que du temps de guérison, c'est du temps d'apprentissage. Là encore, on retrouve l'idée du processus et du temps. Et ça, c'est notre société a enlevé le temps. Hein, il faut se dépêcher, il faut aller vite. Voilà. Et ben, la psychanalyse reste un des bastions. On dit non, il faut prendre son temps.
La différence entre la psychologie et la psychanalyse ?
Alors, la psychologie va plutôt travailler sur le conscient. Par exemple, quand vous emmenez votre fils faire un test, on lui fait faire des tests, ça c'est son conscient. La psychanalyse, c'est plutôt les relations, le dialogue entre l'inconscient et le conscient, c'est-à-dire l'idée qu'on a à l'intérieur de nous des choses qu'on ne connaît pas. Et on va aller les chercher, ces choses-là, pour les rendre conscientes. Alors c'est assez rigolo comme idée parce que en fait, on sait plein de choses, mais on le sait et on ne le sait pas vraiment. Voilà. Il y a des tas de choses qu'on sait, mais on n'a pas forcément connecté encore avec l'émotion, avec quelque chose comme ça. Puis à un moment donné, dans le cadre de l'analyse mais, ou de la psychothérapie, enfin, je veux dire, peu importe, on va reconnecter des choses et notamment, on va effectivement pouvoir beaucoup travailler la question du narcissisme et la question de l'image de soi et la question de la relation. Parce qu'en fait, une relation avec un psy, c'est une relation.
Eh bien, merci beaucoup.
On s'arrête parce que sinon, je suis intarissable.
Non, mais c'est passionnant. C'est sûr qu'on pourrait y rester des heures, mais je suis sûre qu'on se reverra à l'occasion de votre prochain livre.
Avec grand plaisir.
Pour peut-être, je ne sais pas, une conférence.
Quand vous voulez.
Donc, à voir. Je lance la question. Bah, merci beaucoup.
Merci à vous. Vraiment.
Et je rappelle encore une fois le titre de votre livre, La tentation du repli, aux éditions du Bon Conduit.
Merci, au revoir.
Au revoir, Sophie. Eh bien, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. J'espère que ce contenu vous a été utile. Je vous rappelle le titre du livre de Sophie Brown, La tentation du repli, aux éditions du Mot Conduit. Je vous donne rendez-vous sur bloomingyou.fr où vous trouverez la retranscription de cet entretien avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt !